Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Après les frères Grimm, voilà sans doute la personnalité la plus marquante du conte populaire, Charles Perrault. Charles Perrault, dont les motivations étaient fort différentes de celles des frères Grimm, philologues. Contemporain de Boileau, cet académicien fut à l'origine de la controverse entre les modernes et les anciens. Et on remarquera que les contes qu'il mit en lumière ne font évidemment absolument pas référence à l'Antiquité, puisqu'ils sont et viennent du fin fond de la mémoire populaire de la Gaule au Moyen-Âge. Charles Perrault, dit-on, écrivit ses contes vers la fin de sa vie dans le but de plaire aux enfants. Cependant, parmi tous les contes qu'il recueillit, Peau d'âne, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, est d'une violence et d'une subtilité telle qu'il nous faudra toutes les lumières du docteur Dominique Desmichel pour en démêler le sens caché. Il était une fois un royaume où l'on vivait très heureux. Le peuple se félicitait de couler des jours tranquilles sous la protection d'un si bon souverain et d'une reine si belle. Pour comble de joie, la reine mit au monde une belle petite fille. La princesse grandissait en beauté et en gentillesse, comblée par l'amour de son père et de sa mère. Dans ce palais, où tout n'était que luxe et magnificence, une chose remplissait les visiteurs d'étonnement. C'étaient les égards prodigués à un âne qui logeait dans une pièce voisine de la salle du trône. Cet âne fabuleux déposait chaque matin sur sa litière de paille fraîche un tas de beaux écus d'or. Aussi, l'on pense bien que ce précieux fournisseur du trésor royal était sévèrement gardé par des sentinelles et faisait l'objet des attentions les plus assidues. Or, voici que le malheur s'abattit un jour sur le palais. La bonne reine tomba malade d'un mal mystérieux et vit venir ses derniers jours. Avant de rendre l'âme, elle dit à son époux « Jurez-moi que s'il vous prend envie de vous remarier, vous ne le ferez que si vous rencontrez une femme plus belle et plus sage que moi. » Le roi jura, les yeux baignés de larmes. Au bout de quelques mois de deuil, il songea à reprendre femme, mais ni son royaume, ni ceux de ses voisins ne purent lui faire rencontrer une personne qui dépassât la beauté et le charme de son épouse. Seule la princesse, sa fille, éclipsait la défunte reine. Aussi le roi décida-t-il de l'épouser. Horrifiée, la jeune fille se confia à sa marraine qui était une fée. « Il faut gagner du temps, dit celle-ci. Dis à ton père qu'avant d'accéder à sa demande, tu le pries de t'offrir une robe couleur de soleil. » Le roi commanda la robe au meilleur tailleur du royaume. L'homme se procura une soie brodée d'or et de diamants et se mit à l'ouvrage. 7 jours plus tard, la robe fut présentée à la cour. Elle était d'un éclat insoutenable. Confondue, la jeune fille ne sut que répondre, mais sa marraine lui vint de nouveau en aide. « Ton père possède l'âne qui sans cesse remplit les caisses de trésors. Demande-lui la peau de l'animal. Tu ne l'obtiendras pas et le roi renoncera à son projet. » Contrairement à toute attente, la peau fut galamment accordée à la jeune fille. « Tout est perdu, se dit celle-ci, et elle se mit à pleurer amèrement. Heureusement, la fée sa marraine ne manquait pas d'imagination. « Quand on veut le bien, il ne faut jamais craindre, dit-elle. Ressaisis-toi, nous allons organiser ta fuite. Je pense à un déguisement sous lequel personne ne te reconnaîtra. Couvre-toi de la peau de cet âne et barbouille-toi de cendres. Jamais, jamais on ne croira qu'une belle jeune fille se cache sous ce vilain masque. Prends ma baguette magique afin que tes robes et tes bijoux puissent être rendus dès que tu en exprimeras le désir. » C'est donc sous ce déguisement que la princesse échappa du palais avant le lever du jour. Elle finit par arriver dans une ferme où l'on avait besoin d'une souillon pour s'occuper des cochons. Humblement, Podane accepta ce travail. Elle devint le souffre-douleur de tous les valets qui la harcelaient de leurs moqueries. Seul le dimanche apportait un peu de repos à la malheureuse. Alors elle se retirait dans sa chambrette, elle se décrassait et appelait son coffre d'un coup de baguette magique. Elle retirait l'une de ses merveilleuses toilettes et après avoir été parée de ses bijoux, elle se contemplait dans le miroir. Ce doux plaisir l'aidait à supporter la tristesse de son existence. Or, il advint qu'un jeune prince, au retour de la chasse, fit halte dans la cour de cette ferme. Ayant par hasard aperçu la merveilleuse jeune fille, il en demeura ébloui. Il revint à la ferme, mais lorsqu'il posait des questions, personne ne semblait connaître cette jeune beauté. Il n'y a que Podane qui vit là, et elle est plus laide qu'une taupe. Le prince se retira chez lui. Il était si abattu qu'il perdit l'appétit et ne voulut plus voir personne. Sa mère se désola. Pressé par elle, le jeune homme déclara enfin que la seule chose qui lui ferait plaisir serait un gâteau confectionné pour lui par cette Podane. Sur l'ordre de la reine, Podane prit la farine, la plus fine, du beurre, des œufs frais et pétrit le gâteau. En travaillant la pâte, hasard ou non, une de ses bagues y tomba. Le prince trouva la galette si bonne qu'il faillit avaler le mince anneau d'or. En le voyant, il sentit son cœur gonflé de joie. « Qu'on me donne pour épouse, dit-il, la jeune fille qui pourra glisser cet anneau à son doigt. » La nouvelle s'ébruita et l'on vit bientôt accourir des jeunes filles de tout rang. Aucune d'elles n'avait la main assez fine. Princesse, comtesse, baronne, tour à tour présentèrent leurs mains. Leurs doigts étaient trop gros. Vinrent des demoiselles bourgeoises, des couturières, des dentelières. La bague était toujours trop petite. Après les servantes, les cuisinières, il ne resta que Podane au fond de sa basse-cour. Couverte de sa Podane, elle apparut devant le prince. Malgré cet accoutrement, il trouva que sa beauté était telle qu'il trembla de joie. Il reconnut celle qu'un jour il avait vue au fond de la basse-cour. Il lui passa la bague au doigt sans effort et déclara que le mariage aurait lieu sans tarder. Le père de la jeune princesse, pris de remords, accourut avec la fée sa marraine. Le prince et la princesse se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et furent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Dominique Desmichel, avec Blanche-Neige, où nous avons vu le rôle de la mère. Avec Podane, nous allons parler du rôle du père.
Oui, en effet, comme dans beaucoup de contes de fées, le départ est un tout petit peu idyllique, tout va bien. Il était une fois un royaume où l'on vivait heureux. Bon, ça c'est parfait, ça commence comme ça, ou à peu près comme ça. Il y a un roi, il y a une reine, et on sait bien que c'est toujours à partir du bonheur que le malheur aussi se mesure. Et puis, on apprend peu de temps après que le couple est fécond. Donc l'histoire va continuer, il y a une inscription avec cet événement que va être la naissance de l'enfant. L'histoire donc continue, le roi devient père, la reine devient mère, et puis la princesse enfant, elle est désirée et elle est comblée par l'amour de ses parents. Vous vous rappelez, nous l'avons vu lors des précédentes émissions, que le plus souvent le roi doit être compris comme une figure du père, la reine comme une figure de la mère, et les contes racontent ce qui se passe à l'intérieur d'une famille, dans une lecture à la fois symbolique et en même temps dans une référence à quelque chose qui renvoie aux aléas de l'existence, par exemple le fait que le père n'est pas à la hauteur de sa tâche, la mère n'est pas à la hauteur de sa fonction, ou que l'un ou l'autre, ou parfois les deux, vont disparaître. On dit souvent qu'ils meurent, ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir pour de vrai, ça veut dire que dans leur fonction minimale, parentale, ils s'absentent, ils ne remplissent pas leur rôle.
Donc nous sommes dans un temps indéterminé, dans un lieu indéterminé, caractéristique des contes.
Tout
et
à
puis
fait.
Un événement va se produire, c'est donc la mort de cette reine qui, a priori, était très belle et très intelligente. Mais voilà, donc avant de mourir, elle propose un sombre marché à son mari en lui disant « Eh bien, si tu te remaries, il faudra que ce soit avec une femme encore plus belle et plus intelligente que moi ».
Tout à fait. Alors, on retrouve cette question de la mort de la mère, hein, avec l'apparition d'une marâtre. Mais avant, je voudrais qu'on prenne un tout petit peu de temps sur l'autre personnage. Parce que dans ce conte, il y a trois personnages, comme souvent. Hein. Il y a le roi, la reine et puis l'enfant. Ça peut être Blanche-Neige, ça peut être Cendrillon, ça peut être d'autres figures dans d'autres contes. Mais ici, il y a un quatrième et étonnant personnage.
Évidemment, l'âne.
Voilà. Alors, on pourrait se dire, tiens, c'est quand même curieux, d'habitude, on a l'habitude que la reine meurt et puis que le roi épouse une autre femme qui se révèle pas être très gentille avec la figure de la marâtre, et puis voilà. Mais là, il y a un âne. C'est quand même bien étrange dans ce monde un petit peu merveilleux. Et puis, on apprend que cet âne est tout à fait particulier. Il habite dans la pièce juste à côté du trône. Bon. Et puis, il dépose quelque chose sur sa litière. Alors on a envie de se dire, tiens, voilà, il y a un deuxième trône à côté de celui du roi. Chacun siège sur son trône ou chacun trône sur son siège, comme vous voulez. Et puis tout le monde sait bien ce qu'on met sur une litière. Eh bien non, en fait, ici, on met cet âne, il ne met pas sur la litière ce qu'on met d'habitude sur une litière, que ce soit la litière pour le chat ou que ce soit l'équivalent de nos toilettes pour nous. Non, il met des écus d'or. Alors, je crois que il faut d'emblée mettre au cœur de ce récit ce personnage de l'âne et de ce qu'il fait.
Qui donne en effet son titre au conte en plus.
Voilà, hein, il donne, exactement, exactement. Mais cet âne, en gros, il chie sur sa litière, il chie de la merde comme tout le monde. Et ici, cette merde est un petit peu particulière, ce sont des écus d'or. Donc je crois que dans le conte, il y a une véritable intention de faire un rapprochement entre ce qui sort normalement du rectum de n'importe quel mammifère, on va dire, et puis l'or. Je crois que c'est important de s'en rappeler parce que c'est ce qui va permettre de comprendre, à mon avis, la philosophie la plus profonde de ce conte où je crois que l'âne est une figure fondamentale. Et à ce titre-là, il me semble qu'on peut penser que l'âne, c'est la figure en miroir du roi. Il est en quelque sorte son ombre. Il témoigne de la face cachée du roi. Alors, qu'est-ce qui peut représenter cet âne ?
Symboliquement, qu'est-ce que l'âne représente ?
Voilà. Moi, je crois que cet âne, il est simplement un producteur d'objets. C'est-à-dire, il fabrique de l'objet. Certes, c'est de l'or, c'est utile, mais c'est quand même un objet. C'est-à-dire, il ne fabrique pas de richesse intérieure, il ne fabrique pas de richesse symbolique. Et je pense que le conte nous dit que le roi, en fait, c'est un âne. C'est un âne qui est probablement un bon économiste, c'est peut-être un adepte de l'ultralibéralisme ou je ne sais pas trop quoi. On pourrait faire une espèce de lecture marxiste peut-être du conte. Mais je pense que le conte nous dit, il y a le roi sur son trône, il y a l'âne sur son trône, ils sont l'un à côté de l'autre, sous-entendu, ce sont deux aspects du même personnage. Et qu'au fond, peut-être le roi, ça n'est qu'un âne capable simplement de fabriquer des richesses matérielles qu'il dépose au fond du trône ou sur son trône ou dans son royaume. Alors, on dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais on sait que analité et argent sont souvent liés. Alors, l'analité, c'est quoi ? C'est tout ce qui tourne autour de l'anus, autour des selles, autour de la merde, en somme. Je pense qu'il faut penser que cet élément-là est à considérer dans sa fonction. Dans notre vie, on ingère des aliments et le but de la digestion, c'est de garder ce qui est positif. Ça nous donne de l'énergie, des vitamines, de l'eau, des sels minéraux, des protéines, enfin tout ce qu'on a besoin pour vivre. Et puis tout le reste qui est inutile, eh bien on va le rejeter et on va l'éliminer avec le tube digestif et l'arbre urinaire. Sur le plan psychique, c'est la même chose. Dans la vie, on vit des choses qui sont difficiles, on vit des choses qui sont heureuses, il y a des choses qui nous construisent, et puis il y a des choses avec lesquelles il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on arrive au fond à les éliminer. Donc il me semble que cette âne, ou cet âne roi, j'aurais envie de dire, eh bien il est essentiellement capable de faire de l'or. C'est-à-dire, il me semble que cet or renvoie à l'analité de l'individu, à notre partie au fond anale, c'est-à-dire notre désir de pouvoir, de puissance. Ici, la richesse, elle semble vraiment matérielle, matérialisée. Elle n'est pas gagnée à partir d'un travail. Hein, dans ce royaume, on a l'impression qu'il y a de l'or qui vous tombe dessus tous les jours. Donc, ce n'est pas le fruit du labeur, du travail, de l'énergie, de l'invention, de la créativité de chacun. Mais c'est puisé sans limite à partir d'un animal dont on sait bien qu'il brille rarement par sa finesse d'esprit.
Est-ce que ça veut dire qu'on est une fois de plus face à un roi immature ?
Oui, je pense qu'on pourrait dire peut-être quelque chose comme ça. Et j'imagine que par rapport à la dernière émission, vous faites allusion au côté immature de la reine, de la mère de Blanche-Neige. C'est vrai qu'en tout cas, l'âne, c'est un symbole d'ignorance, en tout cas dans notre imaginaire occidental.
C'est aussi la monture des rois, l'âne. En tout cas, la monture de...
Alors, c'est une figure positive aussi, hein, en particulier dans le Nouveau Testament. L'âne, on pourrait dire presque, encadre tout le récit du Nouveau Testament, puisqu'il y a ce premier âne qui est associé au bœuf dans la crèche. Hein, ça, c'est un élément important. Pour moi, je pense que c'est une sorte de figure de couple archétypique. C'est-à-dire, dans la crèche, pour moi, il y a un bœuf et une ânesse, en fait. Hein. On sait aussi que sur le dos d'une ânesse, Jésus va fuir avec son père. Enfin, Joseph et Marie vont partir en Égypte pour fuir la persécution d'Hérode. Et à l'autre bout du récit du Nouveau Testament, il y a l'entrée à Jérusalem pour le dimanche des Rameaux où le Christ monte sur une ânesse aussi. Hein. Donc je crois que là, il y a une figure tout à fait positive de l'âne, mais que globalement, en tout cas, dans notre imaginaire contemporain et probablement dans celui de Grimm et de Perrault, il y avait une figure plus sombre. Dans la peinture, un tout petit mot sur la peinture, parce qu'on a plusieurs fois fait référence, l'âne a souvent représenté la stupidité, la paresse, le côté un peu têtu, hein, « Ah, t'es têtu comme un âne voilà, », ou aussi une sorte d'obéissance un petit peu aveugle. Dans certaines circonstances, en particulier dans le XIVe et XVe siècle, l'âne peut aussi représenter une forme de dépression ou de découragement. Hein. Voilà.
Alors, on va revenir à cet âne dans notre prochaine mission, parce que l'âne sera sacrifié.
Oui.
Revenons.
Mais n'allons pas trop vite.
Revenons à notre récit. Donc, oui. La mère meurt avec cette drôle de promesse qu'elle tire de son mari, de se marier avec quelqu'un qui soit aussi intelligente, aussi belle qu'elle.
Oui.
Et là, on tombe un peu dans le cœur du récit, c'est-à-dire le désir incestueux, le tabou des tabous.
Je reviens encore un tout petit peu, si vous permettez, en arrière, pour, à partir de cette situation-là, s'interroger sur la santé du royaume. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce royaume ? Il me semble que dans ce royaume, il y a quelque chose qui cloche, puisque, au fond, le bonheur de ce royaume n'a pas l'air lié à la sagesse du roi, il n'a pas l'air lié à la sagesse de la reine, qui va d'ailleurs être malade, hein, donc ça veut dire il y a quelque chose d'une souffrance, il y a quelque chose d'une blessure, il y a quelque chose d'une faille dans cette reine. Hein. Le conte ne nous raconte pas qu'elle a attrapé une gastro-entérite ou qu'elle n'était pas vaccinée contre la rougeole et qu'elle a eu la rougeole à 40 ans. C'est pas l'objet. On n'est pas là dans une approche événementielle, on est là dans une approche symbolique. Donc je pense qu'il y a quelque chose du côté d'une justesse de la gouvernance parentale, ici, je vous rappelle, le roi et la reine, ce sont des figures des parents, qui n'est pas top. Hein. Leur capacité à être de bons parents, ici, est mise à mal par cette mise en scène. Je crois que la richesse, ici, elle est liée à l'objet et elle n'est pas liée à quelque chose qui relèverait d'une dimension beaucoup plus spirituelle, avec une véritable intériorisation des fonctions parentales. Ne l'oublions pas, la source de toutes les richesses de ce royaume se niche dans le rectum d'un âne. C'est quand même pas terrible, ça me paraît un tout petit peu bizarre.
Règlement de compte, c'est malheureusement fini pour aujourd'hui. Mais ne désespérez pas, vous nous retrouverez la semaine prochaine, le docteur Dominique Desmichel et moi-même, pour poursuivre cette étonnante exploration du conte Peau d'âne de Charles Perrault. Très bonne journée à l'écoute de Radio Grand Ciel.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.